Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur Oh là là, quelle histoire Oscar, l'émission qui donne envie de lire créée par les élèves de CM2B de l'école Oscar Cléré.
Plongée dans l'aventure,
d'histoires extraordinaires.
Au menu du jour, nous vous proposons l'interview de Monsieur Darlot, scénariste de la BD Nine, menée par Adam, Inoa, Kylian et Joseph et Aminata. Nous aurons aussi des chroniques et les élèves de Madame Bibloc nous liront une histoire. C'est parti pour la première chronique à plusieurs voix d'Aminata, Maya, Pauline et Rayana. À vous!
Si vous aimez l'aventure, vous allez adorer L'Enfant de Cola Guzman.
C'est un petit roman qui peut vous rappeler à des contes célèbres.
C'est l'histoire de Léonard, un enfant qui n'aime pas la compagnie.
Ses parents vont l'obliger à y aller un week-end. Il va s'aventurer et se perdre dans la forêt.
Il va rencontrer des animaux étranges qui parlent.
Peut-être vont-ils lui tendre un piège. À vous de découvrir la suite.
Nous avons bien aimé ce livre car il y a de l'aventure.
Il est très bien illustré par Delphine Pierreux.
Nous vous le conseillons à partir de 5-6 ans.
N'oubliez pas, c'est L'Enfant de Cola Guzman.
À plus.
Nous allons passer à l'interview de Monsieur Darlot, menée par Joseph, Aminata, Adam, Inoa et Kylian.
Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir pour la deuxième fois Monsieur Darlot, scénariste de la BD Nine.
Bonjour Monsieur Darlot, bienvenue dans notre émission Oh là là, quelle histoire Oscar, le podcast littéraire des élèves d'Oscar Cléré.
Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste le métier de scénariste et comment vous l'avez choisi?
Oui, bonjour. Alors, donc le métier de scénariste... le scénariste, c'est celui qui écrit les bandes dessinées, donc qui écrit les histoires. Donc il faut écrire l'intrigue, il faut écrire les dialogues, et en fait, il faut découper l'action en cases, en bulles, décider ce qu'on met dans chaque page. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi, moi, d'être scénariste? C'est parce que je voulais faire de la bande dessinée depuis tout petit, je voulais absolument en faire. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller voir quelqu'un qui travaillait dans un magazine jeunesse qui s'appelait Okapi pour lui apporter des pages. Et il m'a dit, le dessin, c'est pas top. Par contre, scénario, ça peut le faire. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis orienté sur le scénario. J'aime raconter des histoires, de toute façon, donc c'était pas réellement un problème.
Quelle étude avez-vous fait?
Alors, moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir. J'ai fait des études d'anglais. Il y a possibilité de faire des études pour devenir scénariste, ça existe, pour devenir dessinateur aussi, hein, il y a des très bonnes écoles de dessin et d'illustration, mais à l'époque c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué de faire des études de scénario, donc j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir et je suis revenu à la BD plus tard.
Quel type de livre écrivez-vous?
Alors j'écris surtout des livres, des bandes dessinées jeunesse. Un petit peu par hasard, mais les idées que j'ai semblent bien aller dans ce secteur-là, donc voilà.
Nous allons davantage parler de votre BD aujourd'hui, car vous avez sorti un nouvel album cette année, n'est-ce pas?
Oui, il y a le tome 6 de Nine qui est sorti en septembre dernier.
Pourquoi avez-vous choisi d'écrire Nine?
Alors, c'est venu de différentes choses. Je travaillais pour le journal de Spirou et je cherchais un petit peu comme ça à faire de la BD d'aventure avec du fantastique. Et donc, j'ai commencé à proposer ces histoires d'une petite fille qui vivait des aventures dans le métro. Après, on a développé cette série avec un dessinateur qui s'appelle Joanne Pillet, avec qui j'avais envie de travailler, donc on cherchait un projet à deux. Et donc on est retombé sur ces histoires-là que j'avais écrites plusieurs années auparavant. Et voilà, c'est comme ça que Nine est née.
Pourquoi avez-vous choisi de situer l'histoire de Nine dans le métro?
Parce que ça me fascinait en fait. Je trouvais que c'était très intéressant cet univers caché comme ça dans le sous-sol de Paris. Je prenais le métro quand j'étais petit. Et je voyais des espèces de tunnels sombres, on ne savait pas trop où ça allait, etc. Et on devinait que ce qu'on voyait du métro, c'était que la face émergée de l'iceberg, quoi. Donc on devinait tout un monde en profondeur. Et c'est vrai que c'était assez tentant d'associer ça avec du fantastique, c'est-à-dire de se dire qu'il y a vraiment un autre monde souterrain qu'on peut atteindre. Quand on prend les portes interdites.
Pourquoi avez-vous choisi ces personnages?
Les personnages sont nés en même temps que l'histoire. Donc il y avait le décor qui était là, le métro, et Et voilà, il fallait quelqu'un pour l'explorer. Et donc, il y a cette héroïne, Nin, qui est apparue un petit peu comme ça, sans qu'on cherche vraiment. Et puis, il fallait qu'elle ait des compagnons, donc, et surtout un compagnon, donc le tigre de papier, voilà, l'espèce de gros tigre blanc qui est toujours avec elle. Donc, ça formait une espèce de couple intéressant pour raconter ce type d'histoire.
Quel personnage préférez-vous ?
Je les aime bien tous. J'ai peut-être un petit faible pour mon tigre que j'adore, que j'aime bien faire parler, j'aime bien écrire les dialogues pour lui. Il est intéressant, il est un petit peu cynique, il peut être un petit peu effrayant des fois parce que c'est quand même une grosse bête, quoi. C'est un prédateur quand même, mais non, en même temps c'est une grosse peluche quelque part, c'est un garde du corps, un peu un mentor. Et là dans le tome 7 que je suis en train d'écrire, le tigre, il se retrouve un petit peu en danger, en position de faiblesse. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça permet d'explorer des nouvelles facettes de ce personnage.
Combien de tomes avez-vous publié ?
Donc on en est à 6. Donc 6 tomes. Ouais, le dernier, donc Lune de glace, est sorti en septembre.
Combien voulez-vous en faire en tout ?
Alors, on a planifié et on va en faire 10. On n'est pas obligé de planifier, mais c'est intéressant quand on fait une série comme ça, de définir vraiment des chapitres. Voilà, pour raconter une histoire sur la durée. Donc on sait déjà tout ce qu'on va raconter jusqu'au bout. Normalement, on dit tome. Sauf s'il y a des choses qui se passent vis-à-vis des éditeurs qui peuvent changer, bien sûr, la donne. Mais notre programme, c'est 10 tomes.
Quels sont vos livres préférés et votre genre préféré, sinon ?
Moi, j'adore le fantastique. Ça se voit un petit peu avec ce que je fais. Hein. J'ai du mal à sortir de ce genre, même. Je suis vraiment passionné par ça depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis lecteur, je lis des livres fantastiques. Et alors, mes livres préférés, c'est difficile hein, parce que bon, on lit beaucoup de livres dans une vie, hein, donc de définir un livre préféré, c'est compliqué. Mais moi, j'adore par exemple un auteur qui s'appelle Jean Rey, que vous ne connaissez pas. C'est un vieil auteur des années 40 qui est belge et qui écrivait des nouvelles fantastiques. Et j'adore absolument. Et il fait toujours des choses, des histoires avec d'autres mondes. On ouvre une porte, on arrive à un endroit où on ne devrait pas arriver. Des villes disparaissent, des dimensions apparaissent là où elles ne devraient pas. C'est absolument merveilleux comme univers. Très inquiétant aussi, mais merveilleux.
Vous êtes scénariste et vous travaillez donc avec un illustrateur, Johan Pillet. Comment vous travaillez-vous ensemble ?
On discute beaucoup. Ça, c'est vraiment important. Dans toute équipe, c'est la communication. Donc, au départ, il faut que souvent, je propose une idée pour chaque album de Nin. Et puis, il faut déjà qu'il soit d'accord avec cette idée, qu'il pense que c'est intéressant, qu'on peut faire quelque chose avec. Et puis là, je commence à écrire. Alors, je fais des petits résumés, je fais des petites propositions. Il y a des échanges, hein. Ça, beaucoup d'allers-retours entre nous deux, jusqu'à ce qu'on soit vraiment d'accord sur un contenu. Alors là, j'écris un long texte, en fait, qui détaille scène par scène tout ce qui se passe dans l'album. Ça, c'est la première grande étape. Et donc, il doit aussi valider. Donc, il y a aussi des échanges autour de ça. On en discute. On peut supprimer des scènes ou en rajouter s'il y a besoin. Et une fois que ça s'est validé, je fais un storyboard. Donc, un storyboard, c'est une espèce de brouillon de l'album. Je dessine tout l'album avant même qu'il soit dessiné par le véritable illustrateur. Et ça permet comme ça de visualiser tout l'album. Donc, quand j'ai fini mon travail, moi, il y a 62 pages de Nin qui sont déjà dessinées, avec ma manière de dessiner à moi, qui n'est pas exactement la même que Johan. Mais voilà, on a l'histoire qui est prête. À ce moment-là, bien sûr, les dialogues sont écrits, hein, puisque quand je fais mon storyboard, j'écris tous les dialogues, j'écris le contenu des cases, et je donne déjà les indications de chaque planche de l'histoire.
Quel salaire le métier de scénariste permet-il d'avoir ?
Alors ça, c'est une question un peu compliquée. Disons que quand on est scénariste, on touche, comme le dessinateur d'ailleurs, on touche une avance sur les ventes prévues de chaque album en fait. Et donc si on écrit pas mal de pages, vraiment régulièrement, qu'on arrive sans arrêt à avoir des projets en route, on peut s'en sortir, quoi. Donc je ne dis pas qu'on devient richissime. Hein. Voilà, mais... Moi, ça tournerait plutôt autour du SMIC, hein, un petit peu plus. Mais voilà, c'est pas. Mais bon, voilà. La chose qu'il faut savoir, c'est que c'est très irrégulier. Moi, il y a des mois, je suis le roi du pétrole, hein, parce que j'ai plein de sous. Et puis il y a des mois, j'ai rien. Voilà. Ça, parce qu'en fait, les projets sont longs à aboutir et forcément, on ne peut les facturer qu'une fois que les projets sont terminés. Il y a énormément de mois où on travaille pour rien. Il faut être prêt à ça quand on fait ce métier-là.
Avez-vous des livres en cours d'écriture, BD ou autre ?
Oui, alors en ce moment, j'écris plein de choses un peu dans tous les sens. Je m'amuse bien. C'est la première fois depuis le lancement de Nine que j'arrive à faire d'autres choses. Donc, je suis en train d'écrire le premier tome d'une série qui va s'appeler Chaos et qui parle de robots. c'est très différent de Nine. Hein. C'est des robots dans une Angleterre qui est revenue à l'âge du charbon, mais qui est peut-être dans le futur, en fait. Donc voilà. Et j'écris aussi une série qui se passe à Venise au XVIIe siècle avec des acteurs de Commedia dell'arte, un genre de théâtre italien de cette époque-là où tout le monde portait des masques et où les gens improvisaient sur scène. Donc c'est les deux gros projets sur lesquels je travaille. Et il y en a un qui sortira aux éditions du Lombard et un qui sortira aux éditions La Gouttière. Donc en plus, c'est des projets qui sont signés, donc j'ai de la chance. Voilà, j'ai du travail en ce moment. Et puis la suite de Nine, qui est écrite, le tome 7 est écrit. Et j'aimerais bien pouvoir écrire le tome 8, mais il faut que l'album avance un petit peu avant.
Bientôt les vacances d'été,
des BD ou d'autres livres à nous conseiller ?
Y a tellement de choses à lire, lisez, et lisez ce qui vous fait envie surtout, quoi. La lecture, ça ne doit jamais être un effort, hein, donc tout ce qui vous attire est bon, et tout ce qui vous attire est intéressant. Hein. Moi, je peux parler des choses que je lisais quand j'avais votre âge. Hein, moi, en CM2, je lisais des livres qui, déjà à l'époque, étaient on les voyait déjà comme des classiques, hein, mais comme L'île au trésor, par exemple. C'est formidable, L'île au trésor. Hein, c'est hyper prenant, c'est passionnant. Il y a des meurtres, il y a un trésor, bien sûr. Plein de pirates dans tous les sens. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est à lire, ça. Moi, je lisais aussi, quand j'avais votre âge, c'est l'âge où j'ai découvert Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est pareil, c'est un petit peu poussiéreux, mais quand on lit, on rentre bien dedans. C'est drôle, c'est intrigant, ça va un petit peu dans tous les sens et tout, c'est assez génial. Puis, je sais pas, moi, par exemple... Si vous voulez quelque chose d'un peu plus récent, allez, au hasard, quelque chose d'un peu connu, mais il y a Coraline, par exemple, de Neil Gaiman. C'est formidable, ça. C'est aussi une histoire avec une petite jeune fille qui passe dans un autre monde. Donc, il y a un rapport avec Neil. Je crois que je ne l'avais pas lu à l'époque où on a lancé la série. Et donc, c'est une jeune fille qui s'ennuie un petit peu chez elle. Et dans sa maison, elle trouve un passage qui mène à une autre maison, qui est exactement comme la sienne, mais où les choses sont légèrement différentes et les gens sont légèrement différents. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a aussi son père, il y a aussi sa mère, mais ils ne sont pas pareils. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Ils sont un petit peu plus inquiétants, on va dire. C'est une histoire qui fait légèrement peur. Je dirais à partir de 11 ans, c'est bon.
Merci, Monsieur Darlot, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et nous, chers petits Oscars, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle interview.
À bientôt.
Madison, nous t'écoutons pour la deuxième chronique.
Salut, allez écoute Madison, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le manga Hatsune Miku. Si vous aimez les aventures, ce manga est peut-être fait pour vous, alors tendez bien les oreilles et soyez épatés. Saki Fujita, le créateur, a décidé de donner le nom Hatsune Miku car en japonais il signifie le premier son du futur. À 16 ans, ses cheveux teints en bleu turquoise, elle sort des albums, chante devant des millions de personnes. Dès qu'elle se met à chanter, elle se transforme en une magnifique jeune fille. Elle est admirée par des millions de personnes. Cette jeune fille est orpheline. Enfin bref. Le manga existe aussi en série. Je ne vous en dis pas plus pour que vous le découvriez vous-même. Voilà.
Merci Madison. Nous passons à la deuxième chronique à plusieurs voix. À vous.
Pour ceux qui aiment les histoires tragiques avec une femme merveilleuse, vous allez adorer Princesse Sarah.
Sarah est une jeune fille dont le père est anglais et sa mère française qui est malheureusement décédée quand Sarah était encore bébé.
L'histoire se déroule quand Sarah est envoyée dans un pensionnat de jeunes filles car son père doit travailler aux Indes et personne ne sera là pour s'occuper d'elle. Sarah vivra désormais dans un pensionnat en Angleterre.
Mais avant de passer à la suite du résumé, j'aimerais vous préciser que cette histoire est inspirée de faits réels.
Bref, Sarah est très riche car son père maintient une mine aux Indes qui est très importante. Mais Sarah sera donc obligée de se séparer de son père. Mais elle garde du courage car auprès d'elle, elle a Emily.
C'est la poupée que son père l'a offert avant son départ aux Indes.
Sarah est très bien acceptée dans son pensionnat par tous les élèves. Mais une fille la déteste au plus haut point. Elle s'appelle Lavinia. Elle est jalouse de Sarah car elle est plus forte que elle et en tout.
Bref, le jour de l'anniversaire de Sarah arriva et tout se passa bien. Mais jusqu'à la remise de cadeaux.
Mais malheureusement, Sarah a reçu une très très mauvaise nouvelle de son père.
Cette histoire est proposée en série qui est plus ancienne, en BD qui est plus récente et aussi en roman.
L'auteur de la BD est France Hodson Burnett.
Et n'oubliez pas, c'est Princesse Sarah.
Écrit par France Hodson Burnett. Au revoir.
Et maintenant, c'est le moment tant attendu de l'histoire à écouter. Aujourd'hui, les élèves de Madame Bibloc CE2-CM1 vont vous raconter la première partie « Bleu comme l'espoir ».
Bleu comme l'espoir de Michael Olivier.
Chapitre 1. Le garçon ouvre les yeux. Il lui faut quelques secondes pour comprendre ce qui est en train de se passer. L'alarme s'est déclenchée. L'ordinateur de bord a ordonné son réveil. Le sarcophage s'ouvre avec un bruit d'aspiration. L'air un goût de fer et de caoutchouc. La salle de réveil est toute de métal et de tuyaux vision qui ramènent le garçon à la réalité. Il sait qu'il ne doit pas se précipiter, comme on lui a appris lors de sa formation. Il ferme les yeux pour s'habituer au retour de l'oxygène dans ses poumons et compte dans sa tête.
Quand assez de temps est passé, il se retasse sur sa couchette. Il regarde ses mains, fait bouger ses doigts, s'étire et reprend petit à petit conscience de son corps. Il pense aussitôt à sa planète qu'il a quittée depuis combien de temps ? À peine a-t-il mentalement formulé cette question que l'ordinateur lui fournit la réponse. 3789 ans. Le garçon ne peut le croire, mais l'information est aussitôt confirmé, l'engin à bord duquel il a été cryogénisé a quitté la planète mère il y a 3789 années, 3 mois, 7 jours, 9 heures et 12 minutes.
Chapitre 2. Le garçon est pris de vertige. Qu'il ait dormi plus de 3700 ans est inimaginable. Il sait bien que dormir n'est pas le bon verbe. On ne dort pas quand on est cryogénisé. Pas de rêve, aucune fonction cérébrale. C'est la vie mise entre parenthèses. Il pensait être mis sur pause pour quelques années, pas plus de 3000. C'est trop, trop grand, trop long. Une durée inhumaine qui ressemble à la mort et qui lui fait peur après coup.
Qu'est devenu son monde pendant tout ce temps ? Qu'est devenu sa planète ? Les siens sont forcément tous morts depuis des milliers d'années. Ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, à l'exception des 8 garçons et filles qui, comme lui, viennent d'être réanimés par l'ordinateur de bord. L'alarme se tait enfin, et c'est le silence dans le vaisseau spatial. Le garçon se souvient de sa fierté et de celle de sa famille quand il a été retenu pour faire partie de la mission. Il se souvient également des adieux que les enfants 80 en tout à travers sept pays, à 4 continents, avaient dû faire le jour du grand départ.
Les drapeaux, la musique, les discours, l'euphorie, l'espoir, il se souvient des larmes aussi. Comment avait-on pu en arriver là ? Comment, malgré les mises en garde des scientifiques et la révolte des jeunes générations, avait-on pu épuiser les ressources de la planète mère et la rendre inhospitalière ? Comment des dirigeants en étaient-ils arrivés à confier le destin d'un monde à des enfants répartis en 10 vaisseaux, envoyés dans l'espace dans 10 directions différentes à la recherche d'un hypothétique refuge ?
40 filles et 40 garçons lancés à de folles vitesses dans le vide intersidéral pendant que les 10 ordinateurs de bord, programmés pour déclencher l'alarme et réveiller les enfants s'ils repèrent en chemin une planète habitable. Est-ce donc ce qui vient de se passer ? Une planète refuge est-elle enfin en vue après plus de 3789 ans d'errance ? Et il n'est plus temps de s'attarder sur le passé ni de se lamenter. Le garçon, conscient de l'importance de sa mission, qui n'est autre que la survie de son espèce, se lève et actionne l'ouverture du sas menant à la salle de contrôle. D'autres enfants s'y trouvent déjà.
Chapitre 3. Pas de sourire, d'embrassade ni de joie. Ces retrouvailles n'en sont pas. Ces 3789 années sont passées dans une totale inconscience. Les 8 enfants se retrouvent comme s'ils venaient de se quitter alors même qu'ils ont entre-temps parcouru des milliards de kilomètres et atteint un système stellaire qui leur est inconnu. Toutes et tous sont traversés du même espoir et des mêmes questions. Où sommes-nous en approche de quelle planète est-elle réellement habitable? Le garçon s'avance vers le grand hublot. Dehors, c'est le noir profond de l'espace, piqué de millions d'étoiles.
Le vaisseau file vers l'une d'elles, plus grosse car plus proche, identique en apparence à celle de son monde abandonné, cette boule de feu familière autour de laquelle tournait sa planète, qui se levait le matin à l'horizon, réchauffait la peau, les plantes et la terre, et se couchait le soir. Le garçon pense alors à son père et à sa mère, à ses deux frères et à sa sœur. Les images du passé se bousculent. Il revoit leur appartement, leur tour, son école, sa chambre. Il repense aussi à la maison de son grand-père et de son second mari, au bord du lac dans lequel il a appris à nager.
Il se souvient que les deux hommes lui racontaient leur enfance bien avant le grand réchauffement, quand il y avait encore des arbres autour du lac et des poissons dedans, des fleurs dans les jardins et des insectes pour les butiner, de la neige en hiver, de la pluie même l'été, et de l'air qui ne faisait pas tousser. L'ordinateur de bord le ramène au présent. Les premières informations sur leur destination tombent enfin.
Le garçon et les sept autres enfants se concentrent. Ils sont en approche d'une planète tellurique, d'une superficie de 510 millions de kilomètres carrés, d'un volume de 1083 milliards de kilomètres cubes. Est entourée d'une atmosphère composée d'argon, de dioxyde de carbone, d'eau, de 75% d'azote et de 21% d'oxygène. Les enfants s'échangent des regards brillants d'espoir à cette dernière donnée. 21% d'oxygène, c'est faible mais respirable. Des sourires naissent sur les lèvres alors que les données continuent d'apparaître. La planète refuge tourne autour d'une étoile unique et possède un seul satellite comme la planète mère, pense le garçon.
Elle est composée de 5 continents principaux et de 5 océans, la mer couvrant 70% de la surface. On y trouve près de 930 milliards d'espèces vivantes, dont une espèce humanoïde composée de 7,957 milliards d'individus. Cette fois, la stupéfaction et la joie explosent dans le poste de pilotage. Cette planète n'est non seulement habitable, mais habitée. La présence de diverses formes de vie sur son sol est en soi une nouvelle prodigieuse. Mais celle d'une espèce humanoïde l'est plus encore, car elle apporte aux enfants la preuve qu'ils pourront eux-mêmes y survivre.
Contact dans 4 jours,
conclut l'ordinateur.
Merci, la suite au prochain épisode.
Oh là là, c'est déjà la fin, mais rejoignez-nous sur le dernier épisode qui sera présenté par Léon. Bonne lecture en attendant !